VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest, Nigeria. Le président nigérien Muhammadu Buhari prend à partir d'aujourd'hui un congé de 10 jours qui va notamment lui permettre d'aller à Londres pour y traiter une otite. C'est ce qu'a indiqué son cabinet. Le chef de l'État nigérian, 73 ans, a consulté des spécialistes à Abuja, mais ceux-ci et son médecin personnel ont recommandé un autre diagnostic purement à titre préventif, poursuit la présidence. Toujours au Nigeria, la principale organisation musulmane a condamné hier le lynchage d'une chrétienne dans un marché de Kano, la grande métropole du Nord. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Le président Muhammadu Buhari avait déjà condamné le meurtre jeudi de Bridget Agbayime, une commerçante de 74 ans, épouse d'un pasteur. Elle avait été lynchée par une foule dans un marché local de Kano, la grande ville du Nord, majoritairement musulman. Le président Buhari avait appelé les chrétiens et musulmans à respecter la foi de chacun et à vivre ensemble dans la paix. Hier dimanche, la Jamaatul Nasril Islam a condamné à son tour ce crime en disant que c'est contraire à l'islam, condamnant une action perpétrée, selon elle, par des mécréants et des criminels. C'est à peine croyable qu'un acte aussi ignoble puisse être commis au nom de la religion, a déclaré Alhaji Mohamed Saad Aboubakar, le sultan de Sokoto, la plus haute autorité musulmane du Nigeria. Le dignitaire religieux appelle la population au calme pour éviter une escalade de la violence. À la fin du mois passé, au moins 4 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires dans le centre du pays.
On reste en Afrique de l'Ouest. En Guinée, les femmes ne décident pas de leur santé reproductive. Les sujets qui portent sur le sexe sont tabous dans de nombreux ménages. Une situation entretenue, voire aggravée, par des pesanteurs sociales, nous dit de Conakry notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Les hommes, pour la plupart, n'acceptent pas l'espacement des naissances par la prise de produits contraceptifs. C'est le cas d'Abdoulaye, commerçant.
Moi, j'apprécie pas beaucoup parce que quand le désir est là, j'ai envie de le faire et je dois le faire. Raison pour laquelle je me suis marié, je sors pas chercher les femmes ailleurs. Autant que Dieu nous donne, autant nous recevrons à bras ouverts ces enfants. Donc, du coup, la limitation de ces enfants, moi, je l'aime pas. C'est aller à l'encontre de la religion.
La religion, l'un des facteurs défavorables favorable à la planification familiale.
La plupart de nos femmes sont analphabètes, donc elles ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, surtout leurs droits.
Boubacar Sidi Diallo, médecin-chef adjoint de la maternité du centre médical communal de Ratoma, entend au quotidien les plaintes des femmes.
Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de leur mari. Quand ils leur parlent de la planification familiale, elles vont dire « Attendez docteur, je vais aller d'abord demander à mon mari, est-ce qu'il est d'accord ?» Ça veut dire que les femmes ont peur de leur mari pour la planification familiale. Et les maris pensent que quand la femme se planifie, c'est pour arrêter de faire les enfants. On fait penser aux femmes que quand tu te planifies, tu ne vas plus faire les enfants. Donc c'est ce qui les inquiète souvent, elles refusent de se planifier.
En Guinée, le taux d'analphabétisme et de polygamie reste élevé. Environ 90% des femmes en union n'utilisent aucune méthode contraceptive. Et parmi ces femmes, 58% n'ont pas l'intention de les utiliser dans le futur selon une enquête démographique de la santé. Celles qui voudraient faire la planification le font loin des regards indiscrets.
Souvent, je me casse de mon mari pour faire mes planifications avec l'avis de mon médecin. Parce que mon mari, bon, il n'y a pas une communication sexuelle entre nous. Il ne me demande pas quand est-ce que je veux avoir des enfants, quand est-ce que je veux faire l'amour. Vous voyez, c'est vraiment compliqué dans le foyer.
C'est beaucoup plus compliqué pour cette autre dame, la quarantaine.
Il me dit à chaque fois, si tu te planifies, que Dieu te fasse ça, que Dieu te fasse ça. Donc, il me menace chaque fois. Il y a une certaine idéologie dans la tête de nous femmes africaines, surtout musulmanes, que si ton mari te demande le lit, si tu refuses, que Dieu va te maudire. Donc, avec cette idée-là dans la tête, on est obligé, même si on ne veut pas avoir en ce moment d'enfant.
Faire des enfants, parfois sans le vouloir, c'est la triste situation que vivent plusieurs femmes en Guinée. Mais si elles sont nombreuses à ne pas décider de leur vie sexuelle, il y en a par contre qui obligent l'homme à faire plusieurs enfants, surtout quand elles sont deux, voire trois à la maison. Plus d'enfants, plus de parts d'héritage, se défendent-elles. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Jean Ping. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle au Gabon a refusé de répondre à une convocation de la police judiciaire de Libreville la semaine dernière. Une justice qu'il dit être aux ordres du régime. Jean Ping dénonce un harcèlement et se dit déterminé à poursuivre son combat politique.
Tous les jours, risquer l'emprisonnement, et vous venez de voir un exemple, risquer la ruine parce que tous mes comptes sont bloqués, on ne peut faire ça que si on est déterminé. Donc, je sais ce que je risque, la mort, l'emprisonnement, le poison, tout ce qu'il a l'habitude de faire, qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Mes partisans ont l'habitude de dire de moi qu'il vaut mieux mourir comme un lion que de vivre comme un mouton. Je prends le contre-pied de ce qu'il fait. D'abord, je veux instaurer la démocratie. Je m'y engage dans mon projet de société et je vais le faire. Ensuite, je pense que pour le Gabon, un pays très 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 riche avec une population peu nombreuse, pourtant très pauvre, il faut s'occuper de l'homme, il faut s'occuper du Gabonais. Lui, il s'occupe des éléphants, il s'occupe de tout, mais pas du Gabonais.
Jean Ping, candidat à la présidentielle du Gabon. En RDC, la justice congolaise a de nouveau repoussé aujourd'hui la réouverture du procès de 32 bantous et pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide lors d'affrontements ayant opposé leurs deux communautés au Katanga dans le sud-est de la RDC en 2013. La cour d'appel de Lubumbashi a accédé à une demande des parties civiles demandant 3 semaines supplémentaires pour faire venir certaines victimes et leurs témoins avec l'aide de la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo. L'audience a été renvoyée au 27 juin. Crise au Burundi, un journaliste burundais a été arrêté par la police hier dans la province de Cibitoke, puis remis au service national de renseignement SNR, les services secrets burundais qui dépendent de la présidence. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui auprès de témoins et de ses collègues. Selon une source policière à Cibitoke, Egide Ndayisenga de la radio Bonesha FM a été interrogé sur d'éventuels liens avec des radios d'opposition basées au Rwanda et sur des voyages qu'il effectuerait régulièrement dans ce pays, dont les relations sont très tendues avec le Burundi. Le journaliste a nié ces accusations, selon les sources. Afrique du Sud, Pretoria a assuré aujourd'hui qu'il n'y avait pas de danger immédiat dans le pays après la mise en garde des États-Unis contre le risque d'attentat en territoire sud-africain. Samedi, les États-Unis ont mis en garde contre le risque d'attentat dans un avenir proche dans des endroits où se réunissent des citoyens américains en Afrique du Sud. À ce jour, l'Afrique du Sud a échappé aux attentats islamistes, contrairement à d'autres pays africains comme le Kenya, le Burkina Faso, le Mali ou encore la Côte d'Ivoire. La Chine et les États-Unis se retrouvent aujourd'hui à Pékin pour leur face-à-face annuel. Le rendez-vous cette année est sous haute tension, alimenté par les contentieux en mer de Chine méridionale. Idriss Fall.
Le secrétaire d'État John Kerry est arrivé hier soir à Pékin en provenance de Mongolie. Avec le secrétaire au Trésor Jack Lew, ils vont participer lundi et mardi au 8e dialogue stratégique et économique entre la Chine et les États-Unis. Ils seront reçus par le vice-premier ministre Wang Yang et Yang Jiechi, conseiller d'État du président chinois et qui a la main sur la politique étrangère. Le Trésor américain a annoncé un dialogue sur les défis et les opportunités pour les deux pays, mais la liste est longue. Corée du Nord, Taïwan, changement climatique, cybersécurité, terrorisme, le niveau du yuan, la monnaie chinoise, les échanges commerciaux et la coopération entre les deux géants de l'économie mondiale. Le sujet épineux sera sur la mer de Chine méridionale dont Pékin revendique la quasi-totalité et provoque la colère du Vietnam, des Philippines, de Brunei et de la Malaisie. À Ulaanbaatar hier, John Kerry a dénoncé la militarisation de cette zone maritime riche en ressources et cruciale pour le commerce mondial. Pékin a rétorqué que les pays extérieurs devraient jouer un rôle constructif à ce sujet et pas l'inverse.
Et vous terminez la course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis. L'ex-secrétaire d'État américain Hillary Clinton a remporté hier la primaire démocrate de l'île de Porto Rico, se rapprochant de la majorité requise de délégués pour l'investiture présidentielle de son parti. La démocrate devrait dépasser demain la majorité des 2383 délégués, lui garantissant l'investiture pour devenir la première femme investie pour une élection présidentielle par l'un des deux grands partis américains. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.